Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Dallas, drame chez les Wing. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Il y a bien une série emblématique des années 80, le symbole de l'Amérique triomphante des intrigues et du pouvoir de l'argent, et bien c'est bien Dallas. Mais tout ça que nous prenions, nous, pour très au sérieux, ben c'était un cartoon pour les interprètes de la famille Ewing, et surtout pour vous, J.R. Car oui, vous êtes l'impitoyable J.R. Ewing, fils de Jock et d'Eli, frère de Bobby, de Gary et demi-frère de Ray. Et vous êtes incarné par un acteur du nom de Larry Hagman, qui fut pendant 5 ans le partenaire de Barbara Eden dans la sitcom fantastique Génie de mes rêves, puis de Donna Miles dans une autre sitcom, The Good Life. Et vous avez bien entendu, Donna Miles, qui deviendra la garce en chef de la série dérivée de Dallas, Knott's Landing, à savoir Côte Ouest, une série dérivée dont Alexandre Letraine de VL Media nous raconte l'histoire. Oui, pour Larry Hagman et donc pour vous, J.R., Dallas était un cartoon, du drama exubérant et excessif, mais qui a créé ses icônes et ses moments incroyables de série télé, 356 épisodes durant, 53 Stetson durant. Nous avons quitté Dallas en plein drame, dans le final de la saison 8. Renversé par une voiture conduite par la psychopathe Catherine Wentworth, Bobby meurt sur son lit d'hôpital, entouré des siens. L'acteur Patrick Duffy avait décidé de quitter la série.
Montrez-vous solidaire entre vous tous. Montrez-vous une famille. Je vous aime tous. Tellement.
Non. Non.
Non, ne me fais pas ça, Bobby. Ne me laisse pas.
C'est à ce moment-là, en toute logique, que je devrais vous raconter ce qui se déroule dans les 31 épisodes de la saison 9, durant la saison 85-86. Mais ça n'en vaut pas la peine. Aucun jugement critique, hein, mais une simple constatation, parce que cette saison 9 n'existe plus. En effet, à la fin de la saison, Pamela sort du lit, va dans la salle de bain, découvre un homme sous la douche. Et cet homme, c'est Patrick Duffy, en personne.
Good morning.
Mais pour que cela reste totalement secret, la production s'est livrée à une savante manipulation. La scène a été tournée en secret, en prétextant que Duffy tournait une pub pour un savon. La production a engagé une compagnie indépendante à Los Angeles pour tourner une publicité pour un gel douche. J'ai passé toute la journée dans un immense studio avec un tout petit décor de douche en plein milieu, avec moi tout mouillé qui saluait tout le monde pendant 8 heures. Tout ce dont ils avaient besoin, c'est que je me retourne vers la caméra et que je dise « Mais, ce que je faisais, c'était « Bonjour ». Pause, pause, pause. Et vous pouvez avoir un bonjour, vous aussi, si vous vous réveillez comme la famille Duffy avec le savon, machin chose. Et on a tourné la publicité tout entière. La raison profonde de ce retour, c'est que l'audience de Dallas sans Bobby s'effondre. JR, à lui tout seul, n'est plus très intéressant s'il n'a pas son frère à ses côtés qui joue le rôle de compas moral. L'équilibre des forces, maléfique et bénéfique, avait disparu. Tout l'été, on va donc se demander qui est ce personnage sous la douche. C'est Bobby lui-même qui est ressuscité? C'est un double maléfique de Bobby? Après 3 mois de pause estivale et donc de suppositions, le 26 septembre 1986, la 10e saison s'ouvre par le retour triomphal de Bobby Ewing.
Hey, what's the matter? You look like you just saw a ghost.
Eh ouais, en fait, Pam avait tout rêvé. Eh, elle a bien compris. Toute la saison précédente. et le final de saison 8. Tout ça, c'était un rêve de Pamela. Bobby n'est jamais mort. Voilà, c'est simple. Allez hop. Arnaque suprême, bras d'honneur gigantesque adressé aux téléspectateurs, la honte absolue. Bon, allez JR, racontez-nous ce désastre narratif que vous avez tenté d'éviter à tout prix, mais qui finalement vous arrangeait bien.
Oh, ah, c'était vraiment pour la série. Plus la série avait de succès, plus j'avais moi du succès. Et je n'avais aucun égocentrisme à ce sujet. J'ai fait cela dans le but que la série continue, car je savais qu'elle allait pouvoir continuer encore. Quand Patrick a abandonné, je l'ai supplié de ne pas partir. Je lui ai dit « Patrick, tu sais, c'est pas la joie ailleurs. Quitter une série à succès, je veux dire, on était la série numéro 1 à l'époque. Les gens vont penser que t'es devenu fou. » Mais il est parti. Et il a réalisé qu'en effet, ailleurs, c'était pas la joie. Alors, quand je lui ai demandé de revenir, je lui ai dit qu'on serait ravis de l'avoir de retour parmi nous. Et il était ravi aussi.
Ne croyez-vous pas que c'était quand même le début de la fin pour la série ? Que Bobby soit de retour ? Que toute la saison soit un rêve ? C'était un peu comme ce qui est arrivé avec Dynasty et son massacre en Moldavie. Où tout le monde s'est relevé sans une égratignure.
Quand il est revenu, on a dû se creuser la cervelle. On ne pouvait pas trouver la façon de le faire revenir. Et s'il avait un frère jumeau ? Non, ça ne marche pas. On n'avait aucune idée. Mais l'année qui venait de s'écouler était une saison que je n'aimais pas. Mon producteur, celui que j'apprécie, Leonard Katzman, était parti et on avait un autre producteur qui n'avait aucune idée de ce qu'était la série. Il essayait de la faire ressembler à Dynasty. Comment vous dites ici ? Dynasty ? Oui. Il essayait d'injecter des paillettes alors que Dallas, c'est cru, de l'argent et du pouvoir. Et Dynasty, c'était d'avoir des beaux meubles. Il mettait en avant les décors. Je veux dire, c'était une bonne série, mais c'était différent. Et donc, je n'ai pas aimé cette saison. Et j'étais prêt à tout pour qu'on élimine cette saison. Pour juste qu'on dise que rien ne s'est produit. C'était un rêve. C'était le rêve de Pam. Et vous auriez pensé à une autre façon de le faire revenir ? Mais bien sûr, on a perdu en crédibilité, on a perdu des spectateurs, mais on a encore duré 4 années après ça. Et ces 4 années étaient de l'argent frais pour moi. Je me faisais un quart de million de dollars par épisode. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Ça l'est toujours. Mais c'était vraiment énorme à l'époque, et ma femme avait tout investi. Et c'est pourquoi je me trouve maintenant devant vous au Plaza Athénée.
En saison 10, au grand bonheur de vous, JR, Leonard Katzman revient aux commandes de la série. Et David Paulsen, un des plus fameux scénaristes de la série aussi. Tous les producteurs de la saison 9 quittent le navire, ben c'est nickel, puisque comme cela, Katzman n'a plus à suivre les trames que Phil Kapis, l'autre producteur, avait tissées lors de la saison précédente, alors que lui n'était plus en poste de responsabilité. Tout va donc bien pour Dallas ? Bah non, parce que cette histoire de mort de Bobby qui n'était qu'un rêve a des répercussions assez importantes sur sa série dérivée. La série dérivée, vous vous en souvenez, elle s'appelle Côte Ouest. Et je redonne la parole au roi du crossover, Alexandre Letraine, à travers donc son émission sur VL Media, pour qu'il nous retrace ce qui s'est passé dans Côte Ouest suite au décès de Bobby Ewing et un an plus tard, avec sa résurrection.
Eh bien, cet aspect fantomatique est un aspect problématique pour Côte Ouest, sans mauvais jeu de mots. Mais on a rappelé tout à l'heure qu'effectivement, les personnages de Côte Ouest, de Dallas, pardon, vont disparaître progressivement de Côte Ouest. Il y a juste des cas de figure dans lesquels ils peuvent pas s'en passer. C'est quand l'histoire qui est développée au sein du clan Ewing a des répercussions sur, évidemment, la vie de Gary. Alors, avant la disparition de Bobby, il y avait un autre événement dont, effectivement, tu as parlé, qui est la mort de Jock.
Et la là, mort effectivement, de Jock, tout à fait, et son testament.
Et son testament qui va faire que d'un seul coup, Bobby va être doté d'une grosse fortune. Ça va évidemment engendrer beaucoup de choses parce que avec cette fortune, Gary va vouloir investir dans plein de projets. On se souvient, Point Lotus, on se souvient de Apolloon, toutes ces grandes arches de Côte Ouest. Donc ça, c'est la première répercussion. Et puis, évidemment, survient un élément qui est fondamental, qui est la mort de Bobby. Cette mort de Bobby, c'est évidemment un séisme dans l'histoire de Dallas, mais c'est aussi un séisme dans l'histoire de Côte Ouest. Bobby, c'est le seul du clan Ewing qui n'a jamais tourné le dos à Gary. Les deux frères étaient très, très, très proches. C'est lui qui amène Gary à Knots Landing, c'est lui qui l'installe.
C'est lui.
Donc ils sont
très
proches.
C'est lui qui fait le lien entre les deux séries, tu as raison, c'est vrai.
Et j'ajoute quand même que quand Bobby meurt, il y a une grande intrigue qui va nous occuper et qui est une intrigue complètement délirante, qui est l'affaire des jumeaux de Valen. Valen tombe enceinte de Gary, mais Abby est jalouse de cette situation et décide donc de s'arranger pour faire disparaître les jumeaux. Ça va durer toute la saison 6, c'est une des arches les plus folles de la série, moi je trouve ça dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en hommage à Bobby qui a disparu, l'un des deux jumeaux de Valen s'appelle Bobby. Donc c'est l'existence
de ce... Oh mon Dieu. Oh oui, d'accord, c'est vraiment... C'est vrai... Excusez-moi, hein. C'est vraiment le bordel, quoi.
C'est un gros bordel. C'est-à-dire que la petite fille s'appelle Betsy, mais le garçon s'appelle Bobby. Et donc, on l'a fait en hommage à la disparition de ce frère qui a tant compté pour Gary. Donc, c'est quand même compliqué de justifier que d'un seul coup, on efface tout ça et on recommence. Surtout que David Jacobs, on se souvient des prémices de la création de cette série, David Jacobs voulait quelque chose qui était quand même beaucoup plus réaliste. Il a envie de montrer comment la classe moyenne américaine évolue, comment les gens grandissent à l'intérieur des États-Unis. Donc, le switch imposé par Dallas ne peut pas avoir de répercussions. C'est ce que dit Joanne Von Ark. Elle dit on ne peut pas se permettre d'effacer comme si de rien n'était également toute la saison qui a eu lieu dans Côte Ouest. Donc, en fait, David Jacobs va prendre une décision qui est radicale. Il va décider de ne pas tenir compte de la résurrection de Bobby. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que à partir de là, on est un peu comme chez Marvel, on a deux lignes temporelles qui se dessinent, et on a effectivement Gary, pour qui son frère n'est jamais revenu à la vie. Je dis ça, je dis rien, mais ça aura son importance, évidemment, plus tard. Mais voilà,
ah ouais, c'est
quelque chose qui...
Ça veut dire qu'ils vont plus du tout évoquer Bobby. Est-ce qu'ils vont continuer dans Côte Ouest à évoquer les autres personnages de Dallas? Les JR, Sue Ellen et compagnie? Non plus,
en réalité, non. Mais ça, il avait déjà commencé à le faire. C'est-à-dire que, à part quand il s'agissait de mentionner le testament de Jock ou des éléments comme ça, en fait, la série, elle a pris tellement son importance et elle a pris tellement son identité assez rapidement qu'ils en avaient vraiment pas besoin. C'est quelque chose qui... on se rend pas compte, mais de ce spin-off est née vraiment une série indépendante qui a eu sa propre identité et qui montrait quelque chose de différent, même... Abby, qui était un personnage de méchante, n'était pas une méchante aussi caricaturale que pouvait l'être JR dans Dallas ou même Alexis Carrington dans Dynasty. On avait une méchante qui était avec beaucoup de choses profondes. Et donc, du coup, ils n'ont pas besoin de faire mentionner. Et ça les dessert même plus qu'autre chose parce que ça fait référence à une narration, un style d'écriture qui ne leur est pas propre. Donc, ils ne vont plus en parler. Et donc, Bobby n'est jamais ressuscité dans cette série pour ne pas avoir à switcher toutes les intrigues de Côte Ouest au même titre. D'ailleurs, il y a un côté un peu protique de la terre brûlée de la part de Dallas, c'est-à-dire que c'est eux qui donnent le là, comme si c'est eux qui devaient dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça va faire. Et ça, David Jacobs n'a jamais voulu. D'ailleurs, David Jacobs a dit c'est terminé, moi je ne montrerai plus jamais la mort d'un personnage en face d'une caméra, je préfère le montrer dans un coin si ça doit survenir, mais jamais, parce que derrière ça nous handicape pour pouvoir le faire revenir. Et d'ailleurs, on s'en souvient, au début de la saison 14 de Côte Ouest, le personnage de Valen disparaît, mais il disparaît hors champ. On ne la voit pas mourir face à nous. Et ça, c'est les conséquences directes de la gestion par David Jacobs de ce qui s'est passé avec Bobby dans Dallas.
En saison 10, Jock Ewing réapparaît. Et oui, Bobby n'est pas le seul à revenir. Jock a mystérieusement échappé à son accident d'hélicoptère et maintenant il se fait appeler West Parmalee. Il parvient à convaincre une bonne partie de la famille qu'il est bien Jock ayant subi de la chirurgie esthétique réparatrice. Mais les réactions des spectateurs à ce retour ont été extrêmement négatives et les producteurs ont donc changé leur plan. Bah en fait, c'est pas vrai, c'est pas Jock. West se révèle être un usurpateur. Sue Ellen, divorcée de toi, JR, devient une femme d'affaires. Elle va créer toute une ligne de lingerie érotique. Le cousin Jack Ewing, interprété par Dak Rambo, et son ex, April Stevens, interprété par Cherry G. Wilson, deviennent des personnages réguliers. Jack, pas pour très longtemps, mais April, oui. Et JR va manigancer encore et encore jusqu'au point de créer un incident diplomatique international. À la fin de la saison 10, les Petrolet Wings sont fermés par le département de la justice. Susan Howard, alias Donna, vous savez, la femme de Ray Krebs, mécontente du tournant que prenait la série, abandonne son rôle, son personnage commençant une carrière politique à Washington. Mais son départ va un peu passer inaperçu. En effet, de retour de l'hôpital alors qu'elle vient d'annoncer à Bobby qu'elle attend un enfant, ouais, ils ont tous des téléphones de voiture, les Ewing, hein, Pamela s'écrase contre un camion. Puis, elle disparaît de l'hôpital où elle était soignée. À part le fait que Brad Pitt tient le rôle de Randy, le petit ami de Charlie, dans 4 épisodes, la saison 11 de la série est centrée sur les manigances de JR pour récupérer les pétroles et Wing, alors que Bobby lance sa propre entreprise, que Lucy revient pour 2 épisodes et que Clayton et Miss Ellie se séparent. Toujours en conflit avec votre ex, Sue Ellen, vous allez séquestrer John Ross dans une école. Where is my son, bastard? Quand Nicolas, le nouveau petit ami de Sue Ellen, vous menace, cela se termine en pugilat et Nicolas tombe du balcon, se tuant par la même occasion. Folle de rage, Sue Ellen vous tire dessus. La saison 12 marque en 1988 un renouveau pour la série. Cette saison, vous n'êtes pas le seul personnage diabolique à vouloir récupérer les pétroles et Wing. Le rancher du Colorado, Carter McKay, incarné par George Kennedy, va se lancer dans une guerre contre votre entreprise avec des mercenaires, avec Jeremy Wendell à ses côtés, celui qui vient de racheter la compagnie de Cliff Barnes. Carter vous ressemble beaucoup, c'est un peu votre double dans un miroir, car lui aussi a de gros ennuis avec sa famille, sa femme Rose, son drogué de fils Tommy et sa fille Tracy. Si pendant ce temps, vous allez vous la jouer délivrance en devenant prisonnier d'une famille au fin fond de l'Arkansas, qui veut absolument que vous vous mariez avec Callie, leur petite protégée, eh ben on ajoute une grosse touche de glamour avec plusieurs épisodes qui sont tournés à Vienne, en Autriche, puis aussi à Moscou, carrément sur la place Rouge. Sue Ellen, elle, tient sa revanche ultime sur vous. Avec son amant, le scénariste de cinéma Don Lockwood, interprété par un tout jeune Ian McShane, bien avant Deadwood, elle va tourner un film mettant en scène sa vie et les tricheries de JR, incarnée donc par des acteurs et des actrices à l'écran. Et elle va donc menacer JR de sortir le film si jamais un jour il s'oppose à elle. You never know if or when I plan to make it public just to humiliate you. Just for laughs. C'est une fabuleuse sortie pour le personnage de Sue Ellen, devenue enfin victorieuse. Linda Gray va en effet quitter la série. La 13e saison de Dallas se veut en lien avec les problèmes écologiques qui commençaient à émerger. Cliff Barnes va diriger une enquête officielle sur une terrible pollution provoquée par la collision de deux pétroliers, un de la Westar et l'autre des Petrolet Wing. Comme si tout cela ne vous posait pas assez de soucis, comme si le mariage de Bobby avec April ne vous irritait pas déjà, voilà que vous avez un fils caché, James, 20 ans. C'est un jeune JR en puissance, à savoir aussi machiavélique et avide de pouvoir que vous. Il va parvenir à vous faire incarcérer dans un hôpital psychiatrique. Chapeau. Mais cette saison sent tout de même la fin de règne. Non seulement parce que les audiences ne sont plus au beau fixe en comparaison d'il y a quelques années, mais parce que Barbara Belgueles décide d'arrêter sa carrière et quitte donc la série. Officiellement, Miss Ellie sera en Europe aux côtés de Ray et de Jenna. Et en effet, la saison suivante, plus courte, sera la dernière. C'est dès le premier épisode de cette 14e saison, 1990, que pendant leur lune de miel à Paris, tournée sur les lieux mêmes, que April, nouvelle Madame Bobby Ewing, est kidnappée, puis assassinée. Effondrée, Bobby va vendre ses parts des Petrolet Wing, ce que vous avez toujours voulu. Ça y est, enfin les Petrolet Wing vont vous revenir à vous seul. Eh ben non. Tout d'abord, il y a une petite amie de l'époque du collège, à qui vous aviez fait un enfant et qui a dû avorter, qui revient vous chercher des ennuis. Lee Ann de la Vega. Le plus bizarre, c'est que quand même, cette Liane de la Vega, elle a une grosse ressemblance avec un certain génie qui est dans une bouteille. Et que, des années durant, Larry Hagman a eu à son service. Et oui, Barbara Eden arrive dans Dallas, clin d'œil, complice, à génie de mes rêves. Dans un dernier coup de théâtre, c'est Cliff Barnes qui sort enfin victorieux et prend possession de la compagnie des Pétroles Ewing.
It'll be, oh, so much better. Think how sorry they'll all be.
Arrive le tout dernier épisode, où JR est plus seul que jamais. Et sous l'influence d'un ange, il va apparemment se suicider.
Do it!
Le dernier épisode, je pense, n'est pas le meilleur qu'on ait fait. C'est certain. Mais c'était parce que l'on ne pouvait pas imaginer quoi que ce soit d'autre. Ce n'était pas ma responsabilité. C'était Leonard Katzman qui a dit « On va faire un épisode comme si JR n'avait jamais existé. Et on va montrer cela grâce à un ange qui débarque. » Voilà, tu en penses quoi ? J'ai dit « Bon, il faut prendre une petite personne. Essayons de la proposer à Joel Grey. » Bonne idée, a-t-il dit. Génial. On va la voir. Et il est donc venu et a joué un ange qui devient le diable à la fin. J'ai trouvé ça marrant et cela laisse aussi la porte ouverte à un retour, vous savez. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Deux téléfilms. Mais bon, ce n'était pas le mieux de ce qu'on ait jamais fait. Mais c'était marrant. Et on était désespérés. On ne voulait pas finir sur un épisode comme les autres. Car on savait tous que ça allait sans doute être notre dernière année. Et ça a marché jusqu'à un certain stade. Mais ce n'était pas un Dallas typique, cependant.
Mais quand on lit votre livre, ce qu'on se rend compte, c'est que vos relations en dehors de la série avec vos partenaires étaient formidables.
Ah oui, on s'entend tous très bien. Et tout particulièrement Linda, Patrick et moi, vous savez. Patrick et moi, on va à la pêche et à la chasse tout le temps. Et Linda et moi dînons ensemble au moins deux fois par mois. On voyage ensemble quelquefois, ma femme, Linda et moi, pour des tournées publicitaires. Et ainsi de suite. C'est une belle relation.
C'est pour cela que Linda Gray revient le temps de cet épisode final en montrant ce qu'elle serait devenue si JR n'avait jamais existé. Tout comme, mais là je vais céder la parole à Alexandre, Gary et Valen Ewing dans un crossover fantasmé avec Côte Ouest.
Bah, c'est logique. En fait, comme cette histoire très influencée par le film de Capra, La vie est belle, est quelque chose de très fantastique, entre guillemets, de très fantasmé en tout cas, on peut se permettre de faire réintroduire ces personnages-là. On est dans un entre-deux, voilà, on est dans un entre-deux, dans une réalité qui n'est ni celle de Dallas, ni celle de Côte Ouest. On est dans une espèce de zone grise dans laquelle finalement tout est possible. Donc on peut faire revenir Bobby, on peut faire revenir les personnages qui sont plus dans Dallas, et on peut faire revenir les personnages qui sont dans Côte Ouest. C'est quand même assez logique. Parce que Gary, c'est un personnage quand même qui aura eu son importance. C'est celui qui symbolise la fracture du clan Ewing dès le départ. Et le faire revenir ici comme une espèce de revanche vis-à-vis de ce frère qui lui a quand même pourri la vie quand il était installé au Texas, c'est quelque chose qui est extrêmement important, intéressant. Et il y a une espèce de petit côté parodique, entre guillemets, dans cet épisode qui fait aussi du bien, même si effectivement, ce qui peut être dit à certains moments est assez intéressant et nous amène vers des choses qui sont un peu plus sombres. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil de fin de tournage, sachant que ce qui est intéressant, c'est que quand Dallas s'arrête, Côte Ouest n'est pas du tout fini.
Alors, Côte Ouest... voilà, parce qu'au final, Côte Ouest, qui est quand même moins excessif, moins glamour, moins populaire, enfin, a priori, que Dallas... sera plus long. C'est quand même une belle revanche, quand même, franchement.
Elle est plus longue en nombre de saisons. Elle s'est terminée en 1993. Mais elle est plus courte en nombre d'épisodes parce que les saisons étaient plus courtes. Oui, tu l'as très bien dit. Côte Ouest, c'est la série qui, à la fois, s'est nourrie des excès de Dallas, donc le côté un peu trash dont on disait au départ. Elle s'est nourrie de ces trucs-là parce que, franchement, les cliffhangers de fin de saison de Côte Ouest n'ont rien à envier à ceux de Dallas. Il y en a qui sont quand même excellentissimes. On a parlé des bébés de Valen. mais je ne peux pas résister, je me dois de le citer dans ce podcast magnifique, je ne peux pas ne pas parler de Jill Bennett, avec ses gants de cuisine et sa moumoute sur la tête, qui vient faire subir un calvaire à Valen en fin de saison 9, en la forçant à se suicider par des pilules pendant... Ça dure 20 minutes, je ne sais pas si vous imaginez une scène comme ça, 20 minutes à la télévision américaine. Donc les cliffhangers de Côte Ouest n'ont rien à envier à ceux de Dallas. Par contre, effectivement, les personnages sont beaucoup moins outranciers, sont beaucoup moins over the top. Même Greg Sumner, qui pourrait être un peu l'équivalent de JR dans la série, c'est un personnage qui a des failles, c'est un personnage qu'on va apprendre à connaître, dont on va découvrir les souffrances personnelles quand il était plus jeune. Abby Ewing...
C'est un personnage même qui va nous finir par nous émouvoir au moment où il va perdre sa femme, hein, dans un épisode fameux qui a été improvisé par une partie du cast.
Bon, c'est le 200e épisode.
Je ne veux pas parler de Côte Ouest, c'est ton sujet, mais oui. Quand même.
Mais c'est le 200e épisode de Côte Ouest. C'est un moment qui est important, effectivement. Son épouse, dont on ne vous dira pas l'identité si vous avez l'occasion de voir la série, mais disparaît. Effectivement, tous les personnages vont improviser à son éloge funèbre. C'est un moment qui est incroyable, c'est un très très beau moment. Mais même Abby Ewing, quand elle doit faire désintoxiquer sa fille qui est sous l'emprise de la drogue, c'est un moment quand même qui est très très fort et très très puissant. Donc en fait, c'est le parfait mariage des deux en fait. Ce projet initial que Fillerman et Jacobs voulaient mettre en place, c'est-à-dire l'alliance de l'outrance et de la chose un peu plus artistique, eh ben c'est pas inintéressant du tout et ça donne Côte Ouest qui d'ailleurs, sous bien des aspects, préfigurera dès 1979 avec la naissance de Côte Ouest, la naissance d'une série qui va arriver elle quelques 25 ans plus tard, qui est Desperate Housewives, puisque finalement, Côte Ouest peut être vue comme l'ancêtre de Desperate Housewives, ces quatre femmes qui sont vraiment les héroïnes de cette série. Sauf que le faire en 79, bah, c'est beaucoup plus culotté que de le faire en 2004.
Si Dallas s'arrête, c'est aussi pour des raisons de rentabilité. Comme vous le savez, si vous écoutez Previously, une série financée par son diffuseur, mais en partie seulement, le reste étant à la charge des producteurs. Mais par contre, ces mêmes producteurs, ici Lorimar, vont compenser leur investissement en gardant tous les droits sur les reventes et rediffusions à travers le monde. Sauf que, à la surprise de tous, les spectateurs américains n'ont pas envie de revoir les prime time soaps. Une fois découvert les rebondissements de Dynasty ou de Falcon Crest, le mystère n'existe plus. Eh ben, ça n'a plus d'intérêt pour eux. Les séries ne sont pas rentables. Donc, très vite, les unes après les autres, elles vont s'arrêter, car la seule diffusion sur CBS ou ABC ne suffit plus à les rentabiliser. Ainsi se termine pitoyablement l'ère des primetime soaps et la domination de Dallas dans les audiences mondiales. Cinq ans plus tard, en 1996, on va découvrir que vous, JR, ben vous n'êtes pas mort. Ce coup de feu a été donné dans votre miroir. Vous vivez en Europe, alors que Bobby et son fils Christopher vivent à South Fork et que Cliff Barnes contrôle toujours les Petrolet Wings. Ce n'est pas une fanfiction que je vous raconte là, hein, mais un téléfilm écrit par Arthur Lewis et le producteur Leonard Katzman et réalisé par ce dernier. Il s'appelle JR Returns. Après une manipulation encore plus complexe que d'habitude, vous parvenez à faire revenir Bobby dans les affaires, à éliminer Cliff des Petrolet Wings et à placer Sue Ellen à la tête de la compagnie. En 1998, vous retrouvez Bobby et Sue Ellen, toujours interprétés par Patrick Duffy et Linda Gray, dans La guerre des Ewing, un autre unitaire où vous intriguez pour récupérer le contrôle des Petrolet Wings des mains de Sue Ellen et de Bobby, avec des tentatives de kidnapping et d'assassinat fomentées par un concurrent. Par contre, ce second téléfilm fait deux fois moins d'audience que le premier. Donc là, on peut dire que, mis à part des conventions au ranch de South Fork, on en a vraiment bien terminé avec Dallas, hein? Erreur. Grosse erreur. Tant que vous êtes debout, JR, tout est possible. Surtout dans un paysage audiovisuel où les diffuseurs se sont multipliés et où chacun tente d'avoir un titre déjà bien connu dans sa grille des programmes. C'est donc ce que va faire la chaîne du câble TNT aux États-Unis. TNT, ou Turner Network Television, c'est sur le câble basique. Et au milieu des retransmissions sportives et des films, la Warner y produit des séries comme Lazarus Man, Witchblade, La fin de Babylon 5, The Closer avec Kira Sedgwick, Rizzoli and Isles, Falling Skies, et donc en 2010, elle va lancer la production d'un pilote pour une nouvelle série Dallas. Un pilote qui assurera la mise en route d'une première saison de 10 épisodes. L'idée géniale de Cynthia Cidre, la créatrice de cette nouvelle version, est d'unir les personnages iconiques que sont Suellen, Bobby, Cliff, Lucy, Ray Krebs, vous, JR, à travers leurs interprètes d'origine, mais aussi la toute nouvelle génération, vos enfants, qui sont maintenant devenus grands, Christopher, John Ross, Julie, la fille de Cliff, et de mêler leur intrigue. Et là, à la surprise de tous, alors que les tentatives précédentes de films avaient échoué, celle-là, respectueuse de la série d'origine, est collant dans sa continuité, presque, parce qu'on va quand même franchement oublier les deux téléfilms, et ben ça, ça fonctionne. Écoutez ce que votre ex-femme, Suellen, en dit. Je pense qu'il y a plus de similarités que de différences. Quand vous voyez les choses avec du recul, c'est un drame familial. Ça commence avec les parents, Jock et Miss Ellie, et les garçons qui se conduisent plutôt mal. Et ça entraîne des conflits formidables. Mais dans la nouvelle série, les femmes sont bien plus puissantes. Et je pense qu'elles font jeu égal avec les hommes. Une force avec qui il faut compter. Les différences sont plus dans notre société actuelle. Les femmes accèdent au pouvoir, les femmes parlent beaucoup de leurs besoins, de leur propre façon de voir la vie. Et elles y vont. On reflète tout cela, comme on reflétait l'attitude des années 80. Mais cela montre l'évolution de la société. Suellen, alors, était clairement une victime et se contentait de réagir. Elle réagissait à ce que JR faisait. Maintenant, elle prend sa vie entre ses mains. Et votre frère Bobby, alias Patrick Duffy, fait aussi partie de l'aventure. La décision de le faire repose avant tout sur le scénario. Cela fait 20 ans que l'on n'est plus diffusé. Et les fans, durant tout ce temps, veulent du Dallas sous une forme ou sous une autre. Série ou autre. On a eu des propositions et des idées des producteurs et de chaînes de télé, mais elles n'étaient jamais bien. Larry, Linda et moi, on leur disait « c'est terminé ». Ça ne se fera jamais. Puis, mon agent m'a appelé et m'a envoyé un script. Ils veulent refaire Dallas. Et littéralement, ma femme m'a vu lever les yeux au ciel. Mon Dieu, on a déjà vu ça. On n'a jamais pensé que ça pouvait marcher. Puis le script est arrivé au courrier, je l'ai lu et c'était formidable. Pas simplement bien, formidable. Le premier script vraiment formidable que j'ai pu lire, et cela inclut Dallas. On a eu des scénarios formidables jusqu'à la saison 10. Puis des bons scénarios, et puis la dernière année... Mais là, j'étais stupéfait que ça soit si génial. On s'est appelé, Harry, Linda et moi, et on a fait un pacte. On y retourne tous les trois. Si cette série est aussi formidable que son premier script, on peut refaire Dallas. Et si Bobby n'a plus Pamela, sa nouvelle épouse, Anne Ewing, est incarnée par Brenda Strong, un fantôme de la série Desperate Housewives. Mais vous savez, Mary-Alice Young, celle qui se suicide dans le tout premier épisode et retrace ensuite toute la série en voix off depuis sa tombe.
Avant toute chose, je voudrais dire que je suis très contente d'être vivante. C'est tellement agréable de ne pas être 6 pieds sous terre et de ne pas parler depuis sa tombe. Ce qui est merveilleux avec Anne, c'est que, comme Linda l'a très bien dit, ce sont des femmes fortes, des modèles. Anne est l'égale de Bobby sur bien des points. Elle le rejoint, lui est dévouée, elle a un cœur, une conscience, et elle a aussi un passé que l'on découvrira au fil des épisodes. Ça fait d'elle une femme bien plus complexe et intéressante, parce qu'elle a dû s'extraire d'un passé très très sombre pour accéder à sa place actuelle. Moi, je ne pense pas que Anne soit aussi désespérée que le serait une Desperate Housewife. Certainement pas autant que la première incarnation de Suellen en tant qu'éternelle victime. Mais je pense qu'il y a quelque chose de merveilleusement dynamique sur le fait d'aller d'une série iconique à une autre de façon aussi fluide. Et si je n'avais pas été morte dans Desperate Housewife, je ne serais pas capable de tenir ce rôle. Parce que je pense que c'est très difficile pour le public de voir quelqu'un dans un personnage, puis de changer de style très rapidement et de la voir dans un autre personnage.
Et pourtant, ce retour a failli ne jamais se produire. 2 jours avant le début du tournage, Larry Hagman apprend qu'il est atteint d'un cancer et que sa chimio doit démarrer immédiatement. Hagman a cependant travaillé pendant toute la période de son traitement. Ironiquement, lors des premiers épisodes de cette nouvelle version, c'est Bobby, votre frère, qui est censé être atteint d'un cancer et se sait condamné à court terme. You make me cry. You make me sad. Il faut faire très attention au concept, parce que la raison pour laquelle les gens veulent voir la série, c'est de la faire comme elle l'était par le passé. Il faut la moderniser, mais sans changer le concept. Le pétrole et l'argent sont toujours des facteurs qui vont motiver. Pas uniquement dans nos vies de personnages, mais aussi au gouvernement, par exemple. Regardez nos gouvernements, ce n'est que du pétrole et du pouvoir. Ce qu'il nous suffit de faire, c'est de moderniser tout ça. Comment peut-on reprendre ça de nos jours? Quelles sont les ramifications de tout cela dans notre monde actuel? Mais aussi, on a une distribution plus jeune. Et donc, comment ces jeunes gens réagissent face à la situation contemporaine? On a aussi des changements techniques, car on ne tourne plus Dallas de la façon dont on filmait ça il y a 30 ans. Il faut améliorer tout cela pour être au niveau de la sensibilité des spectateurs qui regardent la télé de nos jours. Donc tous ces éléments ont été pris en considération. Je pense qu'on a parfaitement répondu à chacun d'entre eux. Et l'on retrouve Christopher, le fils adoptif de Bobby. Mais le petit Christopher, eh ben, il a grandi. Et maintenant, il est incarné par Jesse Metcalf, le jardinier sexy de Desperate Housewives. En 2013, au Festival de télévision de Monte Carlo, il évoquait son personnage et sa filiation en ces termes. Our essence, our core is... On a un fondement qui reste très moral, très éthique. Et d'une certaine manière, Christopher est comme Bobby. Probablement de plein d'autres façons aussi. Il est aussi très indépendant. Il est très différent dans de nombreux aspects. Il a ses propres soucis, avec un bagage psychologique plus complexe. Il a été adopté, ce n'est pas un Ewing par le sang. Il a une mère qu'il n'a jamais connue, Pamela Ewing, qu'il a carrément abandonnée. Il est plus disposé à des accès de violence, un peu plus conflictuel que Bobby ne l'était. Comment fait-il face à son héritage? C'est une énorme responsabilité pour lui. Il est de retour à South Fork après une année d'absence dans l'épisode pilote. Il a été étudié à l'étranger, il a développé toutes sortes d'énergies alternatives. Il est de retour mais avec une ambition, de prouver à son père et à lui-même qu'il est un Ewing. Et ça devient un vrai passage de flambeau. Et le personnage que va interpréter Jesse ne va pas être au bout de ses surprises. À la fin des 10 épisodes de la première saison, il va découvrir que sa femme, Rebecca, est en réalité Pamela Barnes, la fille de Cliff Barnes et d'Afton Cooper, qui d'ailleurs revient elle aussi dans la série via son actrice Audrey Landers. Callie, celle qui fut à un moment votre femme, J.R., et Mandy Winger vont aussi réapparaître au fil des épisodes. Et du côté du J.R., on retrouve le petit John Ross, qui est grand maintenant, lui aussi, et qui est incarné par Josh Henderson. Lui aussi, il a été dans Desperate Housewives et auparavant dans l'ambitieuse série Over There de Steven Bochco sur une troupe de soldats en Irak.
John Ross est bien plus comme JR qu'il ne le voudrait. Il a grandi dans l'espoir d'avoir un père aimant et JR lui a tout appris. Mais la chose primordiale dans l'esprit de JR restera toujours le pouvoir et l'argent et d'être à la tête de la famille Ewing. Je pense que John Ross apprend beaucoup d'eux. Il pourrait en faire un peu plus, mais il est comme JR. Il a un cœur, mais il peut le mettre de côté pour les affaires, pour les coups bas, pour de la manipulation. Et John Ross fait pareil, qu'il l'aime ou pas. Je crois, moi, qu'il aime ça et qu'il a un cœur.
John Ross a un cœur. Et il adore la rivalité avec Christopher. Ils vont d'ailleurs tous les deux courir après Elena, la fille de la cuisinière des Ewing. Bon, ils vont tout de même s'entendre et à la fin de la première saison, ils créeront Ewing Energize. Il y a tout autant de manigances dans cette série, mais un peu plus de thriller avec des personnages dangereux comme Frank, le chauffeur de Cliff, Vincente, un businessman vénézuélien, Nicolas, l'ami d'enfance d'Elena, qui se révèle être un grand pont d'un cartel de trafic de drogue. Drew, le frère désaxé d'Elena, elle a vraiment pas de chance, qui va mettre le feu à South Fork après avoir détruit une des plateformes pétrolières des Petrol Ewing. Et puis surtout, il y a Harris Ryland, le puissant et diabolique ex-mari de Anne, incarné par Mitch Pileggi des X-Files. Si Hélène ne boit plus dans cette nouvelle série, elle vous contente de cela, du fait que vous ne jouez plus une alcoolique?
Very, very. Offset. No, I'm kidding.
Vous savez, après avoir été associée à cette image très longtemps, j'étais très contente en tant qu'actrice d'aller dans une autre direction, très forte et beaucoup plus saine, vous voyez. Je ne voulais pas être la même qu'il y a 20 ans. On change. Vous changez, vous, en 20 ans. Et donc, j'étais très claire sur la façon dont elle devait se comporter dans cette nouvelle série. Au milieu de la saison 2, suite à un événement tragique, il arrive quelque chose à Sue Ellen. Étiez-vous tout aussi contente avec la façon dont les scénaristes ont évoqué cela ? Pour être très honnête, quand j'ai ouvert le script, j'ai été choquée. J'ai lu le scénario et je me suis dit « Ah non, ils ne peuvent pas sortir quelque chose de mieux ». Puis j'ai pris une grande inspiration, j'ai repris la lecture et j'ai réalisé que si elle devait se remettre à boire, ça serait le bon moment pour elle. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont suivi un programme et ils m'ont dit que s'ils se remettent à boire, c'est qu'il survient une grosse émotion, une tragédie, une circonstance qui se produit. Je me suis donc dit, ok, on y va, car c'est approprié à la situation. Je sentais que c'était logique, que ce n'était pas de la facilité scénaristique, ça ne sortait pas de nulle part. Elle a perdu l'amour de sa vie, et c'était logique.
Et c'était assumé de très belles façons, pas uniquement par les scénaristes, mais par Miss Gray. Elle a interprété ce moment avec tellement de profondeur que tous ceux qui sont aux Alcooliques Anonymes et qui ne boivent plus, disent qu'ils auraient ressenti la même chose. Ils se reconnaissent là-dedans. Et c'était un de nos plus beaux moments, car notre réalisateur a donné le temps qu'il fallait pour que cette décision se fasse. Elle passe par tout ce que vous avez vu, et chaque moment est émouvant. En tant qu'actrice qui travaille dans sa série et que j'admire, c'était juste un de ces moments où je me suis dit « on y est ». Je suis si contente qu'ils aient pu lui donner cette possibilité de traverser cette expérience.
Surprise ! Valen et Gary vont même faire une apparition dans la nouvelle série, alors qu'ils avaient juré quand même de ne plus remettre les pieds dans un univers où les histoires ne sont que des rêves en contradiction avec leur rigueur scénaristique à eux. Alors donc, pour en parler, je fais à nouveau appel à Alexandre Letraine de VL Media, avec qui nous allons donc faire le crossover du crossover sur la série qui suit le crossover. C'est, si vous n'avez pas compris, c'est moi non plus, mais c'est pas grave. Alexandre, tu es avec nous à nouveau. Et il y a une raison pour laquelle je fais appel à toi, c'est que tu vas consacrer ta prochaine émission sur VL Media à Côte Ouest, justement. Alors, les personnages de Gary et de Valen sont tellement forts dans l'imaginaire des Américains qu'on les fait revenir dans cette série récente et dans cette série qui est en fait la suite de Dallas. C'est dingue, non ?
Bah, c'est dingue. Et en même temps, alors, c'est pas totalement incohérent. D'abord parce que c'est plus David Jacobs qui est aux manettes. Côte Ouest n'existe plus. Côte Ouest est juste revenu à la fin des années 90 pour un téléfilm de 3 heures qui s'appelait Retour dans le cul-de-sac. C'est une série qui, on l'a dit, n'a jamais passé véritablement à la postérité. Elle n'a pas le même héritage, elle n'a pas le même place dans l'inconscient collectif que Dallas. Donc c'est une série qui, au fil du temps, a été un peu oubliée, je pense, par beaucoup de téléspectateurs américains et même dans le monde entier. Et donc, du coup, avec cette nouvelle showrunneuse qui est à la tête de Dallas, nouvelle génération, Cynthia Cidre, elle décide effectivement, elle, de se dire « J'ai Dallas nouvelle génération, j'en fais tout simplement une espèce d'univers. » Alors, on parlait d'univers partagé, mais c'est presque ça, comme dans Marvel. Je fais fusionner tous mes univers à l'intérieur de celui-ci. À l'occasion d'un événement qui est quand même un événement primordial, qui est évidemment la mort de JR due à la disparition de Larry Hagman. Et du coup, les faire revenir à ce moment-là, c'est pas inintéressant et c'est pas illogique. Sauf que ça n'aurait jamais dû voir le jour. Parce que je rappelle que dans l'histoire de Côte Ouest, Bobby, il est mort. Et que Gary doit se retrouver face à Bobby. Et pourquoi ? Et il n'est pas étonné de se retrouver face à son frère qui est censé être toujours mort ? Ils ont toujours leurs enfants.
Je ne voulais pas vous amener jusqu'à cette grosse incohérence scénaristique, mais puisque vous y plongez, alors, comment il fait ? Face à son frère qui est mort. C'est un zombie, il s'est fait mordre par un vampire, il y a un truc comme ça, je suis sûr.
Et bah, il continue, en fait, il fait comme si de rien n'était. On assiste même à Gary qui commence à légèrement fricoter avec Sue Ellen. Donc voilà, donc a priori, ah bah, bravo. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Johan von Ark donc revient aussi en Valen. Alors un peu contente, mais en fait cette séquence elle est assez terrible. C'est-à-dire qu'à la fois on a Bobby qui est là, qui est avec son frère, qui vient pour l'enterrement de ce frère disparu, Gary. On a Valen qui fait un peu, elle est un peu dans le coin. C'est-à-dire que son personnage est traité de la même façon quasiment que les autres maîtresses de JR ou de sa secrétaire qui revient ou de Callie, l'ex-femme de JR qui revient aussi au funérailles. Elle est traitée un peu de manière, c'est pas très intéressant ce qu'ils l'ont réservé, je trouve, dans cette nouvelle série. Et Gary va rester quelques épisodes avant de repartir et avant de redisparaître. Mais évidemment, c'est un trait qui est tiré là-dessus. Et je dirais qu'à un moment donné, JR a cette phrase géniale. Au moment de mourir, il dit, ça va être mon chef-d'œuvre, tu vas assister à mon chef-d'œuvre ultime. Bah, le chef-d'œuvre ultime de JR, bah, c'est d'avoir fait revenir son frère Gary dans la timeline de... dans la timeline de Dallas, parce que ça, c'était quand même le truc le plus improbable du monde. Cette disparition de JR va avoir cette espèce de catalyseur qui est à la fois de faire revenir les personnages de Côte Ouest, et en même temps, le chef-d'œuvre ultime de JR, c'est quand même d'avoir fait en sorte que Bobby, le gentil Bobby, devienne le méchant Bobby qui accepte de couvrir des crimes et des choses comme ça. Enfin, ça, c'est quand même la chose la plus savoureuse du monde. Et moi, j'avais posé la question à Patrick Dufy, je lui ai dit, mais... cette petite chose-là, avec ton frère Gary, comment vous le justifiez et tout? Il me dit, bah écoutez, ce sont les conventions du genre du soap. Dans le soap, tout peut arriver. Ça aussi, ça peut arriver. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, c'est une manière de balayer. Ça
s'appelle une pirouette.
Ça s'appelle une pirouette scénaristique. Je me suis un petit peu moqué de cette trame et des choses qui étaient un peu surjouées, surexagérées. Mais en réalité, quand on y pense, cette trame de la mort de JR, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas faite pour faire de l'audience. Elle est faite pour pallier à la disparition d'un comédien qui a marqué évidemment cette série, qui a marqué aussi évidemment d'une certaine manière la naissance de Côte Ouest, la disparition de Larry Hagman, et que c'était aussi une manière pour ces comédiens-là qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, de venir rendre hommage à Larry Hagman sur le tournage de cette série. Donc oui, ça paraît gratuit, oui, ça paraît être une grosse pirouette scénaristique, mais en réalité, c'est une pirouette scénaristique qui se justifie à l'orée de la disparition de Larry Hagman.
Et cette intervention de Gary et de Valen à l'intérieur de cette nouvelle suite, de cette nouvelle version de Dallas, nous fait entrevoir quand même que ben, y a pas de nouvelle version de Côte Ouest. Il n'y a pas de suite à Côte Ouest. Alors que c'est quand même une série qui, aux États-Unis, est restée quand même assez populaire, assez bien vue, on va dire, parce que c'est une série qui est plus considérée comme un drama, comme une série dramatique, plutôt que comme un soap un peu excessif. Alors, pourquoi est-ce que la présence de Gary et de Valen nous fait penser immédiatement que, eh ben, faire à nouveau une suite de Côte Ouest, mais en 2012, 2015, etc., ben, serait plutôt bienvenu, non? Est-ce qu'il n'y avait pas ça un petit peu aussi dans l'idée des producteurs?
Certainement que l'idée a été dans la tête des producteurs. Moi, je ne peux pas ne pas l'imaginer autrement. Mais le problème, c'est que Dallas, Nouvelle Génération, s'est arrêté assez vite. La chaîne TNT l'a annulé. Et donc, du coup, ça a un peu coupé court à tous ces projets-là. La grosse difficulté de faire une suite à Côte Ouest, elle tient dans ses personnages. La différence avec Dallas, c'est que Dallas a su introduire beaucoup de jeunes personnages qui peuvent grandir avec le temps et donc symboliser la nouvelle génération de Dallas. C'est pas le cas dans Côte Ouest. Quand on regarde bien, à part Bobby et Betsy, qui sont les enfants de Gary et Valen, qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de place dans Côte Ouest, on en parle, mais comme d'un rebondissement, ils n'ont pas eu des trames, ils n'ont pas eu des choses à eux. Il y a Olivia, il y a la fille de... Il y a la fille de Abby qui a eu son importance, et le fils d'Abby aussi, mais c'est pareil, c'est assez vite retombé. Il y a l'enfant de Laura, Avery, mais c'est pareil, ce sont des personnages qu'on n'a pas introduits dans Côte Ouest d'une manière assez profonde, avec des arches vraiment répétées. Donc du coup, bâtir une série sur eux, bah, c'est quand même très compliqué, d'autant plus que les acteurs, et c'est pas leur faire offense, comme tout le monde, ils vieillissent, et les acteurs du cast sont beaucoup plus âgés aujourd'hui, et on peut pas bâtir une série aujourd'hui, avec la génération de spectateurs, c'est difficile de bâtir une série sur un cast qui serait peut-être beaucoup plus âgé. Et donc, cette espèce d'équilibre qu'il y a eu entre des personnages qui sont attachants, très attachants, mais qui sont plus âgés, et cette génération qui n'ont pas fait monter dans Côte Ouest, fait que ça rend difficile le fait de créer une suite à Côte Ouest aujourd'hui. Je pense que ce qui pourrait beaucoup plus s'y prêter, c'est une sorte de revival, éventuellement, Un peu comme ça a été fait avec Dynasty, avec des nouveaux acteurs qui interprètent les mêmes personnages. J'y crois assez peu en réalité, parce que comme on l'a dit, Dallas et Dynasty ont eu un impact dans le monde entier. C'est peut-être beaucoup moins le cas de Côte Ouest, qui a été diffusé même assez longtemps après sa diffusion aux États-Unis chez nous. Enfin, là voilà, il y a eu des rediffs, mais très peu finalement depuis les dernières diffusions au début des années 2000 sur TF1. C'est pareil un peu dans le monde entier. Voilà, il y a cette espèce de série qui s'est un peu étiolée avec les années, et c'est bien dommage, parce que comme tu l'as dit, c'est un... Pour moi, c'est un des grands dramas des années 80, un des grands dramas très populaires des années 80, c'est-à-dire bien avant ce qu'on dit aujourd'hui. On dit toujours que les séries des années 2000 ont tout inventé, mais bien avant ça, on a vu que dans les années 80, on pouvait faire du prime time soap de manière intelligente, avec à la fois cette espèce de narration continue et tendue, et en même temps, ce côté sociétal, ce côté évolution de la classe moyenne, ce côté comment les gens grandissent, comment Mac McKenzie, par exemple, a son immonde peignoir rouge pendant 12 saisons, auquel on s'attache. Mais voilà, tous ces éléments-là apporte le sel à cette série, à cette grande série qui a été Côte Ouest, et qui du coup n'aura pas passé les épreuves du temps aussi durement que Dallas, mais parce que peut-être que l'outrance, ça paye beaucoup plus que la sobriété.
Dallas, la nouvelle série, poursuit sa route. Lee Majors, qui fut l'homme qui valait 3 milliards puis l'homme qui tombe à bic, devient l'homme qui a été le petit ami de Sue Ellen dans de nouveaux épisodes. On n'aurait même pas tourné le pilote de cette nouvelle série de Dallas si nous n'étions pas prêts à faire une série tous les trois ensemble, Larry, Linda et moi. On est amis depuis 35 ans et Dallas a été arrêté il y a 20 ans. Au fond de nous, on aimerait être ces personnages et les jouer ensemble pour le restant de nos jours. Mais on n'aurait jamais fait un programme qui n'en valait pas la peine. Cette fois, le scénario était aussi bon que tout ce que l'on pouvait lire en 13 ans de Dallas. En prenant cette décision de faire la série ensemble, on s'est pris une maison quelque part pour y vivre tous les trois. C'est vous dire à quel point on apprécie d'être ensemble. Ça nous importe peu ce que nous faisions, tant que nous le faisions ensemble. Mais de faire Dallas, ça c'est important. Et on ne se serait pas lancé si ça n'avait pas été la bonne chose à faire. Comme Alexandre vous l'a dit, la tragédie dont parlait Linda Gray est bien réelle et pas du tout inventée par un scénariste. Larry Hagman est décédé le 23 novembre 2012 des suites d'une leucémie aiguë. Ses amis Patrick Duffy et Linda Gray étaient à ses côtés dans ses derniers instants. Pour nous, il ne sera jamais mort. Il a quitté notre monde. Comment peut-on continuer Dallas sans lui? Il a créé ce personnage iconique. Mais c'est comme ça qu'il était. Excessif dans la vie et devant l'écran. Il continuera à insuffler de la magie dans la série pour toute l'éternité. Il n'est pas parti. Et en effet, il n'est pas parti pour la série. En accord avec son fils et avec Patrick Duffy, la showrunner de la nouvelle série a concocté une trame digne des plus machiavéliques manipulations de JR. Car le faire mourir de mort naturelle était inimaginable pour un tel personnage. Après 5 épisodes où vous apparaissez, on vous entend au téléphone avec votre fils et soudain, un coup de feu retentit. Vous avez été assassiné. Sauf que tout cela fait partie d'un plan, votre chef-d'œuvre ultime. En effet, se sachant condamné par un cancer, J.R. a fait incriminer Cliff Barnes et a ainsi permis à son fils et à son frère de remettre la main sur les pétroles et Wing. Joli coup, hein ? La troisième saison tente de renouveler la série en l'orientant vers des intrigues mettant en jeu un cartel de la drogue et la pauvre Elena qui tente, avec l'aide de Cliff Barnes, d'obtenir son dû des pétroles et Wing et de South Fork et de se venger du défunt J.R. qui a dépossédé son père de son terrain. Dans les dernières minutes de la saison, alors que Elena se découvre enceinte, la voiture de Christopher explose, le laissant pour mort.
«
Et John Ross, quant à lui, a découvert qu'il avait une sœur que J.R. avait bien cachée toutes ces années.
I want you to find her, Bum. I want you to find my sister.
Si la saison 1 de ce retour est un vrai succès, avec 4 500 000 téléspectateurs et une position de leader sur les séries du câble auprès des 18-49 ans, les saisons suivantes sont moins victorieuses, avec à chaque fois la saison qui chute de moitié dans les audiences. Dallas n'est pas renouvelé au-delà de sa troisième saison.
Quelle était la chose qui a fait le succès de Dallas ? Je pense que c'est bizarrement la famille. C'était une bulle culturelle. La famille tout entière qui vit ensemble, sous un même toit. Trois millionnaires vivant tous dans une maison avec une chambre pour chaque couple. Bah voyons, avez-vous déjà vu ça ? Je veux dire, c'est de l'imaginaire. Vous savez que des garçons voudraient obligatoirement mener leur propre vie. Mais là, ils restent tous ensemble. Ah oui, oui, on a eu beaucoup de plaisir à jouer cela. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Vous savez, j'ai probablement passé plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. On travaillait très durement à l'époque.
Bien, mais n'oublions pas, vous êtes JR, l'impitoyable JR, plus intéressé par le pouvoir que par tout le reste. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans Dallas, hein, JR ?
Le fric est toujours motivant. Je me faisais un paquet de pognon assez colossal et je réalisais et je produisais en même temps. J'étais très occupé et j'avais beaucoup de plaisir. On était tellement proches que c'était facile. Ce n'était pas une série difficile à faire et c'était juste du plaisir. J'ai toujours pris cela comme si c'était un dessin animé.
Au revoir, arrivederci, aloha, bye bye JR.
Merci à vous, c'était une chouette interview, j'apprécie, merci.
Eh bien, merci Alexandre. Rappelle-nous quand nous pourrons avoir la suite des histoires de Gary et de Valen dans Côte Ouest. Sur VL Media, ça sera quand ?
Ce sera le 2 avril, Alain. Je sais que tu l'attends avec impatience.
Ben oui, quand même, franchement. Donc, le 2 avril, le crossover de Previously sur VL Media. Les interviews que vous entendez pendant toute cette saga Dallas ont été réalisées en 2002 à l'occasion de la sortie du livre Hello Darling, le livre de Larry Hagman. En 2010, 2011 et 2013, au Festival de télévision de Monte-Carlo. La semaine prochaine, on parlera encore de pouvoir, de coups bas, d'intrigues et de coups de poignard dans le dos. La semaine prochaine, je vous propose de venir avec moi à la Maison-Blanche. Olivia Pope et le président des États-Unis nous y attendent. Ça hurle dans le bureau ovale. La semaine prochaine, on plongera en plein scandale. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.